Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de Métropolez-vous. Salutations spéciales à ceux qui découvrent cette émission. Nous reprenons aujourd'hui le fil de nos pérégrinations à travers les 37 communes de Toulouse Métropole. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, nous y faisons connaissance avec une commune par les prismes de son histoire, de son patrimoine et de son territoire. C'est ainsi que nous avons déjà consacré une quinzaine de numéros à des communes situées aux quatre points cardinaux de l'espace métropolitain. Chacune a son identité propre, même si l'on peut retrouver de ci de là des épisodes ou des personnages communs à leurs histoires respectives, suivant que ces communes soient situées au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est de la métropole toulousaine. Le présent numéro va plutôt nous amener dans la partie sud-ouest puisqu'il est dédié à l'histoire et au patrimoine de la commune de Tournefeuille. Ce n'est pas une tournefeuillaise qui est venue nous parler de l'histoire et du patrimoine de Tournefeuille, mais une ex-habitante de la commune. Elle est néanmoins très bien placée pour le faire parce qu'il y retourne souvent, vous allez comprendre pourquoi. L'invitée de ce numéro, c'est Isabelle Ballon-Barberis. Bonjour et bienvenue à vous aussi, madame.
Bonjour.
Vous êtes guide conférencière pour l'Office de tourisme de Toulouse Métropole et pour le Musée des Augustins. Et si j'ai dit que vous êtes bien placée pour nous faire découvrir l'histoire et le patrimoine de Tournefeuille, il y a une bonne raison à cela. Pourquoi connaissez-vous donc si bien cette commune, en dehors du fait que vous y avez habité durant de longues années ?
Oui, alors j'y ai habité 18 ans et ça laisse le temps véritablement de s'immerger dans cette commune. Et puis l'Office du tourisme m'a demandé un jour de parler de cette commune puisque j'y avais vécu. Alors j'ai donc cherché, j'ai fait de nombreuses recherches et régulièrement je présente cette commune donc pour l'Office du tourisme et la prochaine visite sera au mois de mai.
Alors on en reparlera bien sûr de cette prochaine visite et puis des autres. Les recherches que vous avez faites, vous les avez faites où ? Aux archives de la commune ou en lisant peut-être certains livres qui ont pu être écrits sur l'histoire de Tournefeuille ?
Alors effectivement, j'ai compulsé beaucoup de documents, mais je me suis beaucoup appuyée sur un ouvrage qui s'appelle « Tournefeuille à la fin de l'Ancien Régime ». C'est un livre qui a été écrit par Marcel Guy. Un livre qui est sorti en 1985 et qui a le mérite de retracer l'histoire des origines à nos jours.
Merci pour toutes ces précisions qui nous permettent à la fois d'en savoir plus sur vous et sur les visites que vous proposez à Tournefeuille. Nous allons y revenir dans quelques minutes en entrant avec vous dans le détail de l'histoire et du patrimoine de cette commune. Ce sera après notre habituel rendez-vous avec l'actualité métropolitaine grâce à Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. C'est avec une information concernant le domaine de l'innovation que nous ouvrons ce flash. Trois pôles de compétitivité Aerospace Valais vont recevoir le soutien financier de Toulouse Métropole en 2020.
Et il s'agit du Derby et Agrisso. Ils rassemblent chacun dans leur domaine sur un territoire des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements universitaires pour développer des projets collectifs et innovants qui permettent aux entreprises d'accroître leur part de marché, notamment à l'international. Pour Derby, Toulouse Métropole maintient son soutien de 30 000 euros pour ce pôle dont la dynamique des entreprises pour réduire la consommation énergétique d'un territoire. Pour Agrisso, la métropole maintient également son soutien à hauteur là aussi de 30 000 euros. Au-delà de ses filières agricoles, ce pôle permet notamment de travailler et de développer des innovations pour répondre aux défis climatiques comme les îlots de fraîcheur, la reforestation, les fermes urbaines ou encore la végétalisation de l'espace public. Le pôle Aerospace Valais, installé lui dans le B612 depuis bientôt 2 ans, bénéficie d'un soutien de 200 000 euros de Toulouse Métropole.
Et maintenant, une bonne nouvelle pour la culture scientifique et technique dans la métropole toulousaine. Le Quai des Savoirs a été retenu pour un projet de résidence de vidéastes scientifiques.
Oui, cet été, le Quai a accueilli les vidéastes de Le Moc, une chaîne YouTube de vulgarisation créée par Redek et Pierrot. Tournée au Quai, leur vidéo « Où vont les vulgarisateurs ?» qui a été vue plus de 17 000 fois depuis son lancement le 15 novembre dernier, interroge les youtubeurs sur la vulgarisation scientifique. Qu'il s'agisse de philosophie, d'anthropologie ou d'histoire, Redek les questionne sur leur motivation à utiliser la plateforme YouTube pour partager leur contenu. Devant l'ampleur du phénomène, le Réseau national des professionnels des cultures scientifiques, techniques et industrielles a souhaité que s'instaurent des liens durables entre les vidéastes et les établissements de culture scientifique et technique. L'association a donc lancé un projet qui vise à combiner l'expertise des acteurs institutionnels avec les compétences et la créativité des vidéastes.
Encore la culture pour terminer, avec une nouvelle qui devrait ravir tous les fans de ballet et d'art lyrique. Le Théâtre du Capitole adapte ses tarifs pour deux spectacles de la saison 2019-2020.
Cet équipement culturel métropolitain s'adapte à de nouveaux publics et produit des créations originales tant dans ses murs qu'à l'extérieur et notamment sur le territoire régional. Deux spectacles de la saison s'inscrivent dans cette optique de développement. Sont concernés le ballet Toulouse-Lautrec. Une partie du public pourra voir ce spectacle en réalité augmentée, un quota de places qui, pour des raisons techniques, sont exclusivement situées au parterre, sera réservé à cet effet. Des tarifs spéciaux sont proposés pour ces places. Pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Jacques Offenbach, le Théâtre du Capitole a aussi imaginé un projet hors du commun, la Péniche Offenbach. Ce spectacle itinérant est porté par deux jeunes artistes lors d'un périple sur le canal du Midi et propose un spectacle lyrique des plus festifs dans des lieux où l'opéra ne se produit jamais. Les tarifs du spectacle seront proposés à 10€ et 6€ pour les enfants de moins de 12 ans.
Merci Corinne Saint-Félix et Isabelle Ballon-Barberis. Est-ce qu'il y a une information de ce flash qui a retenu votre attention et à laquelle vous souhaitez réagir?
Je retiens Toulouse-Lautrec parce que, travaillant au musée des Augustins, j'ai beaucoup l'occasion de parler de ce peintre. Et même si c'est tout à fait inattendu de penser qu'on va associer à l'opéra Toulouse-Lautrec, alors ça me plaît.
Au ballet, là, ce sera un ballet.
Au ballet. Mais le personnage était tellement facétieux qu'on l'imagine rebondissant. C'est une image très animée que j'ai en tête. Et puis l'idée d'Offenbach, c'est vrai que c'est intéressant de ne pas l'oublier parce que c'est tellement gai, Offenbach, qu'on en a besoin. Donc tant mieux.
Et ce sera le long du canal du Midi, un lieu patrimonial que vous connaissez certainement. Eh bien, merci d'avoir partagé ces réactions aux informations de ce flash de Corinne Saint-Félix. Nous reprenons maintenant le cours de cette émission en revenant à son sujet principal, l'histoire, le patrimoine et le territoire de la commune de Tournefeuille.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropole et vous avec notre invitée Isabelle Ballon-Barberis, guide conférencière à l'Office de tourisme de Toulouse Métropole et au Musée des Augustins, notamment pour les visites guidées de Tournefeuille. Ce qui tombe bien, je vais commencer avec la question que je pose invariablement à tous mes invités. Quelle est l'étymologie du nom Tournefeuille, son origine et l'époque à laquelle la commune le prend?
Alors en fait, on pense que ce nom apparaît à la fin du XIIIe siècle. C'est une chose assez précise. Et en fait, ça vient du mot latin turris, qui signifie la tour. C'est l'histoire d'une tour, d'un donjon, d'une fortification. Il y a l'idée aussi d'une enceinte qui tournerait et qui borderait peut-être bien donc la rivière Le Touche, qui est en fait la limite de la commune.
Alors, le feuille, par contre, ça c'est pour le côté tournant, tournefeuille.
C'est difficile à définir. Vous savez, un nom de commune, c'est beaucoup ce que les habitants en font. Il est évident que comme Tournefeuille est bordée par Le Touche et que Le Touche est plein d'humidité, ça donne beaucoup de végétation. Voilà.
Oui, ça peut être effectivement la bonne piste. Est-ce qu'on a trouvé des traces de communautés humaines anciennes sur le territoire de la commune? Et vous parliez du Touche, je crois que c'est le cas. Il y a eu des fouilles
oui,
en bordure.
En fait, les objets que l'on possède, qui sont les plus anciens, sont de la préhistoire et plus précisément, on est entre 400 000 et 200 000 ans avant Jésus-Christ. C'est une époque qu'on appelle le paléolithique inférieur et on a retrouvé des galets de cette époque-là. Et puis un petit peu plus tard, à l'époque romaine, toujours en bordure de Touche, on est à peu près au 1er siècle avant Jésus-Christ, on retrouve une amphore, mais c'est à peu près tout.
Une fois de plus, des objets, mais pas de traces de bâtiments.
Non.
On arrive au Moyen-Âge, alors évidemment c'est très long le Moyen-Âge.
Bien
a priori,
sûr.
Comme souvent, pas grand-chose à dire avant l'an 1000 et même avant le 12e siècle.
Non, rien à signaler avant cette date. Effectivement, c'est à partir du 12e siècle. On a surtout des documents, puisqu'il y a un acte de donation de terre aux chevaliers du Temple, vous voyez, ce qu'on appelle les Templiers. Et ensuite, on sait qu'au début du XIVe siècle, quand on arrête les Templiers, ce sont les chevaliers de l'ordre de Malte qui vont devenir propriétaires de quatre grandes bordes, c'est-à-dire des fermes, sur cette commune de Tournefeuille. Aujourd'hui, ces quatre fermes correspondent à ce qu'on appelle le marquisat de l'Aramée.
Alors voilà, le marquisat, on va y venir, mais avant, il y a eu ce qu'on appelle une seigneurie.
Oui, parce que effectivement, très tôt, on a des seigneurs possédant un château. Alors le premier château de Tournefeuille, c'est également le XIIe siècle, et c'est du côté du chemin de Saint-Pierre. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à cette époque-là au centre d'aujourd'hui.
Oui.
Ça ne correspond pas au centre d'aujourd'hui. Mais il y avait également une première église au XIIe siècle qui était près de ce château, en haut du chemin Saint-Pierre. Ce n'est pas du tout le centre aujourd'hui.
Ça veut dire que ce château, cette église, il n'en reste absolument rien ?
Non, il n'en reste rien. Alors on pourrait trouver des traces de murets, mais c'est assez difficile d'exploiter cela en tout cas.
Oui, oui, voilà, donc ça a quasi disparu. À partir de 1503, si j'ai bien lu, ça devient une annexe, en tout cas tout ce qui était Tournefeuille à l'époque, devient une annexe de la paroisse Saint-Nicolas de Toulouse.
C'est vrai, donc Saint-Nicolas de Toulouse, c'est la rive gauche, donc Tournefeuille est de ce côté-là de toute façon. Tournefeuille est liée à cette paroisse Saint-Nicolas, mais on sait aussi qu'elle est liée par exemple au collège Saint-Martial. Le collège Saint-Martial, c'est aujourd'hui le grand hôtel de l'opéra.
Ah oui.
Ouais. Et on disait que la dîme de l'église de Tournefeuille servait à financer ce collège Saint-Martial. Une chose assez intéressante.
Ah oui,
aussi.
Que vous m'apprenez, vraiment je l'ignorais totalement.
Non, voilà. Mais c'est important de revenir sur le château de Tournefeuille, parce que le château de Tournefeuille, en fait, on connaît son propriétaire. Le premier nom, c'est un certain Louis Minard, et il est donc châtelain en 1485. Voilà, ça c'est très très concret, et à cette époque-là, fin du XVe siècle, c'est le château de Tournefeuille, mais à l'emplacement du château aujourd'hui. Alors quand je fais visiter Tournefeuille, tout le monde me dit « mais où il est le château de Tournefeuille ?» Parce que le château de Tournefeuille, c'est la mairie.
Oui, c'est
donc
la mairie.
Tout le monde connaît le château de Tournefeuille sans savoir qu'il est château, qu'il a été château en tout cas.
On va y revenir, vous avez évoqué tout à l'heure le marquisat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Tournefeuille devient marquisat et c'est Louis XIV qui l'élève à ce rang. Ça s'est fait dans quelles circonstances en fait ? Pour quelles raisons ?
En fait, c'est purement un titre de courtoisie qui est approuvé par le roi. C'est une manière de distinguer Tournefeuille. Voilà. Mais c'est vrai que Tournefeuille est une ville qui doit, au XVIIe siècle, vraiment rebondir parce qu'il y a eu un sac des protestants. Tournefeuille, au niveau de son église et de son château, ont été vraiment très abîmés à cette fin du XVIe siècle. Et donc, début du XVIIe siècle, il y a une nouvelle famille qui s'appelle la famille des Collet qui va jusqu'à la Révolution, être propriétaire de ce château. Alors ce qui est amusant avec les Collet, Collet ça s'écrit C-A-U-L-E-T, et ça veut dire chou en occitan. Et dans l'ancien blason de la ville, on a de nombreux choux qui nous permettent de comprendre qui étaient les propriétaires.
Alors cette famille Collet, il faut préciser, c'était ce qu'on appelle une noblesse de robe. C'était des magistrats, une noblesse
oui,
parlementaire toulousaine.
Oui, c'est ça. Ce sont des magistrats, mais dont l'origine est dans le Rouergue, et qui se sont installés à Toulouse, en fait, au XVIe siècle. Et c'est vrai qu'ils étaient très puissants, notamment au musée des Augustins, où je travaille. Il y a un portrait de Jean de Collet, qui est tout à fait intéressant. Et c'est vrai que ces magistrats toulousains avaient des campagnes, c'est-à-dire des possessions, et notamment possédaient le château de Tournefeuille.
Alors, le fonctionnement de la ville à l'époque, comment était-elle gérée ? Je crois qu'il y avait ce qu'on appelait des consuls, qui était le cas aussi à Toulouse,
oui,
mais c'était le cas aussi à Tournefeuille.
Oui, c'est vrai. Mais je voudrais revenir sur le fait que à Tournefeuille, donc, on avait le seigneur qui instituait un juge pour rendre la justice et il confiait son administration à des consuls. Le seigneur percevait l'impôt et, en cas de guerre, il protégait la commune. Il levait les armes pour défendre sa commune. Ça fonctionnait comme ça.
Est-ce qu'à l'époque, il y a des personnalités qui se sont illustrées, qui ont laissé une trace dans l'histoire, en dehors de cette famille de Collet à Tournefeuille ?
Non, je ne pourrais pas vous citer d'autres noms, mais concernant les Collet, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que avant la Révolution française, dans le midi de la France, les femmes et les hommes sont relativement à égalité. On a des seigneuresses, des co-seigneuresses de Tournefeuille qu'on appelait Catherine ou Antoinette de Bonald. On a des noms et on sait qu'elles héritaient des terres comme les hommes. Mais avec la Révolution, c'est fini. Et ça, c'est intéressant quand même de mentionner les droits des femmes avant la Révolution, dans le midi de la France.
Oui, c'était bien particulier à la région, il faut le préciser.
Absolument. Dans le nord de la France, ça ne se passait pas comme ça. Mais dans le midi, les femmes avaient ce pouvoir-là. Et ça, c'est important.
Alors là, nous sommes au Marquisat, donc on est au XVIIe siècle. Le château, justement, qui est l'actuelle mairie, est érigé je crois, sous Louis XIII, donc première moitié du XVIIe. Qui en est le propriétaire d'ailleurs à l'époque ?
Alors, on a en fait la famille de Rivière avant d'avoir les Collet, parce que les Collet, ce sera de très nombreuses générations. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le château, aujourd'hui, c'est essentiellement effectivement un bâtiment du XVIIe siècle, mais nous faisons visiter, lors de ces visites avec l'Office de tourisme de Toulouse, deux endroits du château qui restent des endroits du XVe siècle. On a des voûtes sur croisées d'ogives au rez-de-chaussée et à l'étage qui datent de la fin du XVe siècle. Mais le château du XVIIe, c'est un corps de logis qui est pris donc entre deux ailes en retour. Donc vous avez une forme en U qui est la forme du XVIIe siècle.
C'est typique.
Voilà. Alors, c'est intéressant aussi de dire que ce château, aujourd'hui, il a un étage, mais il en avait peut-être deux, parce que si on se réfère à d'anciennes gravures, on voit qu'il aurait peut-être un deuxième étage et des tours beaucoup plus hautes que les deux tours aujourd'hui qui ne dépassent pas. Mais la Révolution a certainement calmé cette vanité qui consistait à dominer et on a une bâtisse qui a dû être en fait légèrement abaissée.
Vous parlez de la Révolution, alors on y arrive, 18e siècle, fin 18e. Est-ce qu'il y a des événements à signaler à Tournefeuille pendant cette période très troublée, évidemment ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir, après ce fameux sac des protestants, donc une Tournefeuille qui doit se réveiller. Elle a eu aussi à rebondir à l'époque du Prince Noir, un conte, en fait, cette époque aussi de la guerre de Cent Ans qui va beaucoup décimer la population. Donc elle rebondit, mais en fait elle reste discrète, je dirais. Et même à l'époque du boom du pastel, qui est économiquement une chose formidable pour Toulouse, Tournefeuille, rive gauche, n'est pas concerné. En fait, c'est le Lauragais, c'est tout ce qui est rive droite et du côté, je dirais, voilà, de l'est, mais à l'ouest, hein, du côté rive gauche, Tournefeuille ne bouge pas beaucoup. Tournefeuille reste tranquille et agricole et c'est vrai qu'elle est très céréalière. Il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, c'est intéressant de se dire que les choses vont petit à petit évoluer. Quant au XVIIIe siècle, on va avoir la vigne qui prendra de plus en plus d'importance. On sait qu'au XVIIe, la vigne sur le territoire de Tournefeuille, c'est 8%. Et puis, on passe à la veille de la Révolution, on est à 40% de ce que l'on produit, c'est de la vigne. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, de notable à préciser.
Donc des viticulteurs qui, évidemment, devaient vendre beaucoup leur production à Toulouse, essentiellement.
Oui, oui. Mais c'est une chose qu'en fait, on ne connaît pas très bien. Il y a comme cela... c'est vrai, une bourgade qui vit tranquillement, paisiblement. On sait aussi peut-être qu'au XVIIe siècle, Molière a pu venir dormir au château de Tournefeuille. On sait que Molière a joué à Toulouse, mais ce sont des petites choses qui sont assez, finalement, assez discrètes.
Oui, on ne sait pas si ce ne sont pas des légendes un peu.
Voilà. Bon,
on peut le penser, mais il n'y a aucune certitude.
Oui, on sait aussi, par exemple, que pour le château de Tournefeuille, ce château avait un très grand parc. Ce parc qui, aujourd'hui, comprend le cinéma. L'Utopia, hein, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais vous voyez, c'était pas du tout un jardin d'agrément avec des fontaines, des nymphées, des statues. On sait qu'il y avait des pommelés pour les vergers de pommes. On sait qu'il y avait des garennes pour essayer de limiter les lapins sauvages dans un certain périmètre. Mais on sait que c'était un jardin utile. Hein, c'était pas un jardin pour s'amuser. Voilà, donc il y a quelque chose de sérieux. Le parc du château, c'est quelque chose qui est utile. C'est pas pour, voilà, encore une fois, se reposer vraiment. Donc, on a une petite bourgade qui travaille.
19e siècle ?
Alors, au 19e siècle, c'est vrai qu'on a une ville qui va lentement grandir. L'activité est toujours agricole. Vous voyez, dans la ville aujourd'hui, il y a encore deux pigeonniers. Un qui se trouve plutôt en bordure d'un grand axe routier et l'autre qui est juste derrière l'église. Alors, personne ne peut le manquer. Hein. Il fait partie du paysage. Pourquoi est-ce qu'on a des pigeonniers dans une commune ? Parce qu'on récolte la colombine. La colombine, c'est le joli nom pour signifier la fiente du pigeon. Et en fait, si on récolte cette fiente, c'est que c'est un engrais exceptionnel pour ensemencer les champs alentours. Et les pigeonniers sont au centre de la ville. Donc on voit qu'il y a ce rythme de la vie agricole qui est essentiel. On a des paysans, on a des artisans, on a beaucoup de bouchers. C'est une chose assez étonnante à Tournefeuille, il y a beaucoup de bouchers. Et on n'est pas étonné de savoir qu'au tout début du XXe siècle, on a une ligne de chemin de fer, en fait, entre Toulouse et Boulogne-sur-Gesse, parce qu'on a besoin, justement, eh bien, de transporter du bétail.
Acheminer le bétail.
Voilà.
Ce qui explique qu'il y a eu, à l'époque, en tout cas, beaucoup de bouchers dans la ville de Tournefeuille. Vous avez parlé de l'église, il faut peut-être qu'on en dise un mot tout de même, parce qu'elle est assez typique, elle aussi, elle a un clocher-mur.
Voilà, elle a un clocher-mur. Alors, le premier, c'est peut-être celui de la rue du Thor, de l'église Notre-Dame du Thor à Toulouse, donc à l'époque du Moyen-Âge. Et puis, on a donc cette église qui va en fait être au départ une chapelle qui dépendait du château de la famille Collet. Et puis, c'est une église au XVIIIe siècle que l'on va agrandir un petit peu. Mais elle va donc dominer, c'est vrai, de par ce mur très vertical, qui est donc finalement une chose qui, dans le paysage du Midi toulousain, est une chose assez récurrente. Hein, ces clochers-murs que l'on va dresser, qui sont efficaces parce qu'ils sont hauts, qui semblent un petit peu un décor de théâtre, parce que quand on fait le tour de l'église, on s'aperçoit que c'est purement une façade et rien derrière.
On arrive au XXe siècle, première moitié, l'entre-deux-guerres. Alors il y a quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il y a l'ancien président de la République, Gaston Doumergue, Troisième République, je précise, qui vient s'installer à Tournefeuille, alors qu'il n'est pas du tout originaire de la région. Nous sommes au début des années 30, et là je crois qu'il faut chercher du côté de sa femme pour comprendre pourquoi il vient s'installer précisément ici.
Oui, alors il se trouve que ce président de la République, qui quand il est devenu président n'était pas marié, c'est une chose très très rare en fait, hein, qui se reproduira.
Surtout à l'époque.
Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il a épousé une femme qui était de...
Ariégeoise.
Oui, qui était ariégeoise. Et qui était de Varille. Alors, on est juste aux portes de l'Ariège, on n'est pas encore dans
Varille,
les Pyrénées.
Varille, c'est à côté de Pamiers, pour ceux qui
ne
connaissent pas.
Voilà, on est juste...
C'est
encore...
le plateau à Pamiers.
Voilà, on est encore dans la plaine. Et est-ce que c'est la raison? Lui, il était donc originaire de la région de Nîmes. Alors, est-ce que Tournefeuille serait donc à mi-chemin entre l'Ariège et Nîmes?
Pas vraiment.
C'est pas vraiment le cas. Mais en tout cas, il y a toujours aujourd'hui, dans la rue principale, la maison. La maison qui aurait dû être détruite parce qu'elle a été très abîmée, mais dont la façade a été maintenue parce que finalement, un président de la République y a vécu. Alors c'est amusant parce que sur cette façade, c'est une maison du 19e. Mais il y a un roi couronné. Alors c'est pas mal pour un président
oui,
de la République. Mais c'est vrai que... On a un bâtiment qui a été préservé certainement parce qu'il y a vécu un président de la République.
Seconde guerre mondiale, est-ce que sous l'occupation, il y a des choses à signaler à Tournefeuille?
Non, pas que je sache vraiment. En fait, Tournefeuille est une ville qui va lentement mais sûrement exploser, je dirais, à partir des années 70.
Oui, alors est-ce qu'il y a une raison à ça? Parce qu'il y a certaines communes dont la population a fortement augmenté à la fin des années 60 suite au rapatriement des Français d'Algérie. Là, c'est pas le cas de Tournefeuille. Son développement est lié à d'autres raisons, peut-être à l'aéronautique, parce que c'est pas très loin des dépôts aéronautiques de Blagnac, Colomiers. Ça peut être une raison.
Bien sûr. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on sait que depuis la fin du XVIIIe siècle, au lendemain de la Révolution française, on avait à peu près 600 habitants à Tournefeuille, donc c'est peu peuplé. Et on sait qu'au début du XXe siècle, il n'y en avait pas plus de 800.
Oui, ça
donc,
n'a quasiment pas évolué.
Ça n'a pas évolué. Mais c'est vrai que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir un développement qui va être finalement assez explosif et qui va surtout se constater dans les années 70. Puisque on sait que on est à peu près 1000 habitants en 1940, donc pendant la guerre. On est dans les années 60 à peu près 2000 habitants. Et puis, avec les années 70-80, ça va profondément augmenter, puisque dans les années 90, on est à 16 000 habitants. Et en 2015, vous voyez, on est à 26 000 habitants.
Oui, on peut penser qu'aujourd'hui, on est à plus de 27 000 sans doute. Et
voilà,
on approche des 30 000 habitants.
On approche des 30 000 habitants. Est-ce que c'est une limite qui ne sera pas dépassée? En tout cas, aujourd'hui, ça freine un petit peu. La croissance est moins importante. Et c'est vrai qu'il y a cette volonté de préserver dans cette commune un certain esprit de tranquillité. Mais c'est aujourd'hui la troisième ville de Haute-Garonne après Toulouse et Colomiers. Alors, elle a considérablement augmenté avec une population jeune, une population de famille, et que ces espaces verts sont là nombreux. Aujourd'hui, c'est vrai que certaines maisons dans la rue principale sont détruites pour pouvoir faire des petits collectifs à trois étages. J'espère qu'on n'ira pas plus haut. Je crois pas, parce qu'on a vraiment envie de maintenir cette...
Un esprit village aussi
un
petit peu.
Un esprit village. En fait, de toute façon, même quand on dit Tournefeuille, Tournefeuille, c'est un nom qui est tellement charmant qu'on n'imagine pas que ça puisse être plein d'immeubles et surpeuplé.
On imagine une jolie bourgade,
voilà,
plutôt tranquille,
on imagine des fleurs,
jolie,
de la verdure.
Voilà, agréable.
Absolument.
Alors, il y a Un autre atout pour Tournefeuille, c'est qu'il y a eu une politique culturelle pendant les 15-20 dernières années et qu'aujourd'hui, ben, il y a, vous avez parlé du cinéma Utopia, mais il y a aussi l'Escale, cette salle de spectacle, le Grenier de Toulouse qui est en résidence là-bas, l'Orchestre de Chambre de Toulouse qui donne deux concerts chaque mois. Et j'en oublie, c'est vraiment aussi une ville où il fait bon vivre à cause de ça, ou plutôt grâce à ça.
Ben oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a une offre culturelle qui est tout à fait importante. Moi, j'ai vécu à Tournefeuille 18 ans, personnellement, et c'est important de le dire parce que je connais quand même assez bien. Aujourd'hui, j'habite Toulouse, mais je me dis qu'à Toulouse, il y a tellement d'offres et que quand on vit à Tournefeuille, c'est quelque chose qu'on peut gérer. On se dit qu'on peut un petit peu goûter à tout ce qui se propose et véritablement, on se rend à la médiathèque, on se rend à l'Escale, qui est cette donc très belle salle pour notamment des concerts de musique de chambre.
Du théâtre.
Oui, il y a le festival également Marionnettissimo.
Très beau.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et on peut presque tout couvrir, c'est-à-dire se rendre à chaque manifestation. Et là, on se dit qu'on peut faire vraiment partie de la vie culturelle. À Toulouse, il y a tellement de choses que finalement, on se dit que par quoi commencer. Mais à Tournefeuille, c'est vrai qu'on a envie de grignoter et de goûter vraiment cette offre.
Et puis, il y a une autre chose très intéressante à Tournefeuille, c'est qu'il y a le lac de la Ramée et sa base de loisirs. 250 hectares, le lac de la Ramée sur les 1800 que compte la commune. Là aussi, c'est un atout, je pense, très important pour la qualité de vie.
C'est sûr, c'est comme un poumon bleu hein, dans la ville. Et c'est vrai qu'il y a donc un endroit qui est très, très attractif. Mais ce qui me plaît aussi dans Tournefeuille, c'est qu'en fait, la municipalité installe des œuvres d'art, que ce soit devant la mairie, que ce soit donc devant le nouveau collège. Et vous avez comme ça des sculptures qui émergent dans la ville et qui prouvent aussi qu'on a envie qu'elles soient dotées de ces créations tout à fait contemporaines. Ça me semble intéressant. On a également un bus express aujourd'hui entre le cœur de la ville et Toulouse. Il existait une petite ligne de chemin de fer par le passé qui a duré 50 ans entre le centre-ville et Toulouse. On en rêve aujourd'hui parce qu'elle a disparu, mais ce serait très, très intéressant qu'elle renaisse. En fait, bon, on a quand même un bus express, alors on essaie de la remplacer
oui,
de cette manière.
Oui, on peut s'y rendre assez rapidement tout de même, sauf aux heures de pointe où là c'est toujours un peu compliqué, mais là c'est vrai un peu partout autour de Toulouse.
C'est sûr.
Et bien voilà, un joli tour dans le passé et le présent, peut-être même un peu l'avenir de cette commune de Tournefeuille. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir bien voulu en être l'invitée, Isabelle Ballon-Barberis, et d'avoir partagé avec nous toutes vos connaissances sur l'histoire et le patrimoine de cette commune, celle que vous partagez aussi avec les personnes qui participent à vos visites guidées à Tournefeuille. À l'ouest de la métropole toulousaine, une commune où il fait bon vivre. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Comme vous avez pu le constater tout au long de ce numéro, je signale qu'Isabelle Ballon-Barberis est également l'auteur du livre « Toulouse entre ciel et terre » paru aux éditions Grand Sud. Lors de notre prochaine émission, nous aborderons l'histoire, le patrimoine et le territoire de la commune de Launaguet, située au nord de Toulouse métropole. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri à la technique Christophe Aubry. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.